liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 20, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, parle-nous du sommaire, mon bon Manu.
Alors, on a cette catégorie d'articles, dont un dossier de 6 articles en dessous que j'ai regroupé, parce que quand même. Petite chose sur Richard Stallman et une conférence qu'il a passée pas longtemps, la CADA et les accès aux codes sources de l'État, le TTIP, les tiers-lieux, ou les Fab Labs, hein, globalement, le manuel scolaire à l'ère du net et de contenu libre, on va dire. Et pour finir, le secteur public, il y a des choses là-dessus qui sont intéressantes.
Lesaffaires.com, logiciel libre, dossier de 6 articles, un article de Jean-François Venne.
Des articles, même, carrément.
Oui, des articles. Moi, j'ai pas tout lu, hein, je dois avouer que. Ouais. Parce que ça m'a un peu piqué les yeux quand même.
Les articles sont assez intéressants. En gros, ça reprend ce qu'on dit depuis assez longtemps, en fait, en faisant le point sur toute la partie entreprise, communautaire du logiciel libre, les différences entre le libre et l'open source. Enfin, voilà, tout ce qu'on entend parler depuis très longtemps. Ça fait un peu la synthèse de manière assez intéressante. Et c'est plutôt pas mal pour voir de quoi ça parle.
Alors, déjà, ça se situe au Québec, il faut préciser.
Voilà, c'est
Québec. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir une série d'articles. Article de pub pour des entreprises dans le coin, donc on sent que le machin doit être sponsorisé.
Oui, je crois qu'il y a deux boîtes qui doivent être derrière, notamment Zimbra et alors ce qui s'appelle Zero Spam, qui a l'air d'être une PME, bah voilà, hein, qui ouvre un peu l'international, mais ça n'empêche, ça parle de logiciel libre et ça met en avant du logiciel libre avec des discussions sur l'open source, des choses comme ça. Et puis c'est Facile, l'association du Québec qui est aussi mise en avant.
Ah, il y a quand même un article qui fait l'apologie de la gratuité en disant le logiciel libre c'est gratuit, c'est trop cool.
Et puis l'autre qui dit aussi que le logiciel libre et l'open source c'est la même chose.
Voilà, donc il y a quand même plein de trucs que je trouve super approximatifs et...
Vous abusez franchement, le gratuit, et bah oui, ils en parlent parce que bien sûr que c'est un super argument et justement, sur l'open source, bah, l'article c'est du pareil au même avec un point d'interrogation, donc quand même bon, et puis c'est forcément il y a quand même plein de choses communes entre l'open source et le libre, je veux dire, c'est même tout à fait la même chose, si ce n'est pour la philosophie fondamentale, qui, oui, est importante.
Alors, c'est pas tout à fait la même chose, puisque l'OSI n'a pas exactement la même liste de licences, il a des critères différents. Mais voilà, moi, c'est le côté de la gratuité qui m'a fait bloquer, hein, parce que c'est vraiment, en disant vrai, le gros intérêt, le seul intérêt du libre, c'est la gratuité, point barre. Et donc, quand je lis ça, j'ai tendance à faire une sorte de refus d'obstacle. Hein, je suis une brave, non. Lyon Capital, Richard Stallman et la liberté du web, un article de Florent Delia.
Ça fait suite en fait à une conférence de RMS à Lyon la semaine dernière. Ça récapitule les positions de RMS sur le sujet, sur tout ce qui est le logiciel libre, les positions de Microsoft, les voleurs de données et autres, avec quelques petites anecdotes marrantes comme quoi il a été obligé de faire sa conférence sous Windows, qu'il a dû subir ça.
Oui, autre anecdote marrante, mais peut-être pas de la même manière, c'est un personnage, hein, Richard Stallman, et bien, c'est l'introduction de l'article quasiment, c'est qu'il est monté sur l'estrade avec ses chaussures à la main et qu'il a fait sa conf en chaussettes. Ça marque les esprits, hein. On se rappelle à une époque, eh bien, se gratter les pieds devant des députés français parce que bah voilà, il avait un moment où il s'ennuyait un petit peu. Hein. Une fois qu'il avait discuté, je sais plus, il y avait une dizaine de députés qui étaient avec lui. Donc il marque un peu toujours le coup d'une certaine manière.
À notre RMS national, quoi, ou international.
Le Figaro, la CADA est favorable à l'accès au code source d'un logiciel de l'État, un article d'Alain Bensoussan. Donc un dossier qu'on suit de très près à l'april, on en a parlé les dernières semaines, il s'agit donc de donner accès au code source de logiciel au travers de la CADA qui est une commission, un machin qui s'exprime sur l'opportunité de transférer, rendre public des documents administratifs.
En l'occurrence, c'est une demande CADA un peu particulière parce que ça concerne le code source du logiciel de simulation des impôts qui a été réclamé par un ancien stagiaire de chez eux. Et donc la CADA...
Qui est
chercheur, qui a envie de se servir en fait de l'algorithme pour ses études et pour continuer à rédiger sa thèse. Et la CADA s'est exprimée favorablement à cette demande, donc le code devrait être communiqué par l'administration. Donc là, on a l'avis d'Alain Bensoussan, qui est quand même un monument des droits informatiques en tant qu'avocat. Il reprend toutes les lois qui existent, tous les sujets autour de ça, donc ça reste très technique puisqu'il y a beaucoup de textes de loi cités, beaucoup de points de droit et autres, mais ça peut quand même être intéressant pour voir jusqu'où on peut aller avec cette demande-là.
Donc du coup, c'est un article bien documenté, juridique, un peu ardue, mais au moins qui n'est pas juste du blablatage, quoi.
Alors, il y avait une question qu'on se posait par rapport à l'ouverture du logiciel de l'État. C'était sous quelle licence ça allait être ouvert. Et là, il a l'air de répondre un peu en citant les articles. En gros, le logiciel qui va sortir de l'État, bah, il peut être repris à volonté, mais il faut citer et il faut surtout pas modifier l'original, ce qui fait que ce ne serait pas du logiciel libre. C'est un peu embêtant.
Effectivement, donc ça va être un petit peu problématique.
On verra, le diable est toujours dans les détails, donc on verra ce que ça donnera et quelle licence ils vont choisir pour publier leur logiciel.
Sachant que l'État a quand même pris des positions très fortes par rapport au logiciel libre et il pourrait très bien se décider de rentrer dans une dynamique libre qui serait un vrai choix politique pour le coup. La Tribune, Cécilia Malmström, une infirmière au chevet du TTIP, un article de Florence Autret.
Donc TTIP, c'est le fameux traité transatlantique.
TAFTA.
TAFTA, PIPA, SOPA, enfin tous les trucs qu'on a déjà dégommés avant. Et donc là, ça fait le constat qu'en gros, ça tente aussi de se faire dégommer. Il y a déjà pas mal de critiques sur le sujet, et donc il va falloir bien jouer au niveau politique, enfin pour que les opposants gagnent, et pour aussi dans l'autre sens que les politiciens arrivent à faire passer ce traité.
Oui, c'est en train de se faire dégommer à cause de la clause qui fait que les grosses entreprises pourrait attaquer des États, mais il y a un retour en force du TTIP.
Oui, le problème, c'est pas tant que... Enfin, il y a ce problème, effectivement, qu'on puisse attaquer, mais devant un tribunal arbitral, qui est un machin professionnel, privé, qui n'est pas un vrai tribunal avec des vrais magistrats. Et c'est ça qui coince essentiellement dans l'affaire. Donc, qu'il y ait des litiges qui soient réglés, c'est une chose, mais le fait que ce soit entre les mains d'intérêts privés, c'est ça qui pose souci.
Alors, il semblerait que le TTIP revienne en force à cause de... Alors, c'est assez original, de la Russie, parce qu'avec les développements internationaux, les oppositions entre la Russie et le monde occidental, un rapprochement avec les États-Unis est probablement en faveur de l'Europe. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Hein. On a peur, tout simplement. Et donc, le TTIP, c'est un moyen de se rapprocher, un peu pourri à cause de cette clause, et d'autres encore, hein, les poulets au chlore et compagnie.
Voilà, et puis les brevets logiciels aussi, hein, qui arrivent aussi dans le lot. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle beaucoup pour le logiciel libre, parce que, bah oui, potentiellement, ça peut remettre en question la brevetabilité logicielle en Europe.
Enfin, la non-brevetabilité.
La non-brevetabilité.
Ou la quasi-non-brevetabilité.
Voilà, donc ça pourrait vraiment être bordélique aussi en application. En Europe.
Et donc, cette personne suédoise, je crois, son boulot, c'est d'essayer de faire passer la pilule, d'arrondir les angles, de trouver des solutions qui passeraient mieux par rapport à tous les gens qui hurlent sur cette question. Alors, c'est une libérale. L'article loue son sens de la diplomatie et sa capacité à passer entre les différentes positions. Et elle dit qu'il faut absolument le faire parce que de toute façon, enfin, il s'agit en gros de poser une norme internationale d'échange commercial. Et si on le fait pas maintenant, dans 5-6 ans, ce sera la Chine qui imposera sa position. Bon, comme toujours, on n'a pas le choix, hein, c'est un peu le principe. En tout cas, ça évolue et on reste vigilant. Il n'y a pas que nous, hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont là-dessus en disant ok, vous allez arrondir les angles, mais on veut quelque chose qui soit réellement démocratique et pas cette espèce de machin qui nous retire de plus en plus de droits. Sled.fr, viens dans mon tiers-lieu, j'organise un hackathon en open source, un article de Jean-Laurent Casselli. Donc en fait, c'est une interview de quelqu'un qu'on a évoqué récemment dans la revue de presse, qui est Michel Bowens, qui est un spécialiste de l'économie collaborative. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a vraiment cette orientation travail collaboratif, très orientée libre, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'économie collaborative.
L'article est assez intéressant, parce qu'en fait, bon, au départ, il y a une partie interview un peu classique, mais en fait, le journaliste se met à poser des questions en fait, qu'on pourrait un peu rétorquer à tous ceux qui sont dans cette espèce de babacou.
C'est ces remarques de beauf.
Les remarques de beauf, voilà. Donc, en essayant d'expliquer pourquoi, donc par exemple, pourquoi ça fait beaucoup de bruit, au final, c'est que du bricolage ou.
Est-ce que c'est pas un peu de l'angélisme?
Voilà, de l'angélisme. Est-ce que ça permet de mettre du beurre dans les épinards ou même ne serait-ce que de manger tout court? Ça démolit un peu les gros poncifs qu'on a sur le sujet en expliquant bien comment ça marche, pourquoi ça fonctionne bien, etc. Donc, ça fait vraiment le tour de la question et c'est un article qui est un peu intéressant pour ceux qui ne connaissent pas trop bien encore ces milieux-là.
Il est assez long, mais il reste très accessible. Et Michel Bowens dit des choses tout à fait intéressantes. On sort des banalités qu'on peut lire assez habituellement. Le Huffington Post, pour un nouveau manuel scolaire, un article d'Émilie Blanchard, qui est une tribune. Émilie Blanchard étant une prof d'histoire géo, et manifestement c'est tiré d'un blog.
Alors c'est une tribune co-signée, il semblerait qu'il y ait 1000 professeurs qui sont derrière tout ça, des gens qui sont regroupés sur un site lelivrescolaire.fr, donc il faut aller jeter un œil a priori, parce que des choses qui tombent sur le bon sens pour les manuels scolaires, et notamment leur diffusion avec des licences libres.
Voilà, donc déjà aujourd'hui il y a un premier problème sur les manuels scolaires, c'est que c'est des trucs qui sont rédigés par une petite communauté très restreinte de professeurs qui on ne sait même pas comment ils sont sélectionnés, que les contenus ne changent pas.
On doit savoir, mais
en tout cas c'est très cryptique. classique. Les manuels sont rédigés, le contenu ne peut pas être reproduit, ça a tendance à même pas bouger d'une année sur l'autre. Enfin, il n'y a pas de refonte réelle du système là-dessus.
C'est, donc, très statique.
C'est très statique.
C'est du papier, ouais.
Et donc le but, maintenant avec le tout le numérique qui est apparu depuis quelques années déjà maintenant, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce numérique sur ces livrets scolaires pour faire de la contribution collaborative, pour remettre à jour ces manuels-là, pour les diffuser de manière beaucoup plus ouverte, qu'on puisse les reprendre, les modifier, etc.
Bah oui, les personnaliser notamment, parce que là, on récupère des manuels papier qui coûtent un bras, qui sont modifiés, hein, contrairement à ce que tu pourrais croire finalement. Ils sont modifiés régulièrement parce que ça permet de les revendre une nouvelle fois à chaque fois.
Et là, toujours à la marge, quoi.
Oui, quelque part. Mais là, au contraire, ça permet de faire des choses très personnelles.
Voilà, ce qu'elle reproche, c'est pas tant qu'ils soient modifiés à la marge, c'est qu'ils sont tous pareils. Donc en fait, c'est fait pour un élève moyen. Et on sait qu'il n'y a pas d'individu moyen, il y a des moyennes de comportement, mais chaque élève est différent. Et donc elle cite également Césamat, hein, qui est cette initiative qui existe depuis plusieurs années, avec un réseau de professeurs de mathématiques qui ont fait des exercices, qu'ils ont testés, donc des exercices qui ont été testés par des dizaines et des dizaines de professeurs, sur des centaines d'élèves, des milliers d'élèves, et donc qui ont fait des cahiers d'exercices pour les vacances notamment, ou des choses comme ça, de très bonne qualité, parce que derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup de tests, des tas de points de vue différents, etc. Et donc, il y a cette inspiration en disant le manuel devrait être beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui, beaucoup plus qu'un livre papier qui est figé, qui est standard. Ça devrait être des outils à la fois dans le travail commun des profs ensemble et également dans la diffusion, dans l'organisation, etc. Donc avec une vision très très différente, quoi.
Donc allez jeter un œil sur l'article, mais surtout sur leur site, lelivrescolaire.fr. Franchement, il y a des choses intéressantes à faire là-dedans.
Voilà, puis c'est un truc qui parle pas d'informatique, ça parle d'éducation. Il y a plein de profs, vous en connaissez sans doute, vous êtes peut-être vous-même prof. Et donc voilà, c'est un argumentaire de prof sur des choses qui touchent tout le monde. Silicone.fr, logiciel libre, pourquoi le secteur public doit aller plus loin? Un article de Jacques Marzin, qui est une tribune. Jacques Marzin, c'est en gros le patron de la DSI de l'État. C'est pas la première fois qu'il arrive dans la revue de presse.
Donc c'est un gros gars, hein, pour le coup, c'est quelqu'un qui nous parle.
Voilà, il a un peu les mains toutes sur les manettes, hein, de tout ce qui est l'État. Et donc là, il critique le socle interministériel commun des logiciels libres.
Qui a été refondé.
Qui a été refondé, ouais. Il y a la V2, version 2, qui a été publiée récemment. Et en gros, qui fait la liste de tous les logiciels, de pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on doit utiliser ou pas, en fonction du contexte.
Dans les administrations. Hein,
dans les administrations, ouais,
qu'est-ce qu'on doit utiliser, qu'est-ce qui est recommandé d'utiliser
dans les administrations françaises.
C'est pareil. Hein.
Voilà. Et donc le but, là, il fait un peu la critique qu'on devrait aller plus loin, en fait, parce que c'est pas vraiment très contraignant. Il y a encore des choses qui sont pas claires, justement, en particulier sur la position sur le logiciel libre. Sur la V2, je sais pas où est-ce que ça en est, mais la V1, il y avait déjà eu l'apparition de Microsoft qui apparaissait un peu à droite à gauche, où les solutions libres étaient juste conseillées.
Ça a évolué en mieux. Hein,
mais ça a évolué en mieux.
Ils s'étaient fait avoir par Microsoft, voilà. Qui n'a pas eu que eux. Ils ont fait standardiser à l'arrache des formats débiles. Et donc là, non, ça évolue en bien. Ils vont plutôt aller vers LibreOffice et éviter les doublons, notamment.
Ce que précise l'auteur, hein, c'est que notamment un des problèmes, c'est que l'informatique, ça va très très vite et que finalement ce référentiel a été mis à jour de façon épisodique parce que je sais plus depuis combien d'années le précédent était en place.
3-4 ans. Hein, moins,
voilà, donc qui, en termes de vie informatique, c'est infini, c'est très long.
C'était la préhistoire.
Donc le truc va perdre de sa qualité et ça, c'est un des points difficiles qu'il évoque. Cet article, pour moi, s'inscrit dans une série d'articles puisque ce type a déjà signé plusieurs tribunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il répète qu'il n'y a pas de religion, en gros, c'est pas de l'idéologie, c'est-à-dire on fait pas du libre pour faire du libre, mais on fait des choix mesurés, calculés. Ce que je trouve assez rigolo, parce que nous, on n'est pas libriste juste parce qu'on s'est réveillé un matin en disant il faut faire ça, c'est con. Derrière, on a des arguments et un certain nombre d'éléments qui nous font penser que c'est le bon choix. Mais en tout cas, ça laisse toujours cette impression que l'État va vers plus de libre et qu'il y a une vraie politique derrière, ça fait plaisir.
Voilà, on a fait le tour, donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse pour la semaine 21.
Et oui, merci, salut.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.